Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Inexorable, le coronavirus poursuit sa progression à travers le monde, l'OMS accusant notamment certains pays de ne pas prendre la menace suffisamment au sérieux.
Le moins d'une semaine après la signature d'un accord entre les États-Unis d'un côté et les talibans de l'autre, la capitale afghane Kaboul a été secouée ce matin par une attaque faisant au moins 18 blessés.
Après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Moscou et Ankara, la province d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie s'est réveillée elle ce matin dans le calme et pour la première fois depuis le début en décembre dernier d'une offensive lancée par le régime de Damas contre ce dernier grand bastion à la fois rebelle et djihadiste. En France, le patron des rencontres d'Arles, Sam Stourdze, a été désigné pour prendre les commandes de l'Académie de France à Rome, la fameuse Villa Médicis mettant ainsi fin à une vacance du poste depuis septembre 2018. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, François Gémen, chercheur, membre du GIEC et spécialiste de la géopolitique de l'environnement. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avocat, le conflit permanent, diffusion à partir de 12h55 du grand entretien que l'avocat Richard Malka nous a accordé. C'était samedi dernier à l'occasion du forum France Culture à la Sorbonne 2020, la société face au conflit. C'est le thème que nous avons labouré, travaillé tous ensemble durant cette journée.
Merci et à tout à l'heure. Où finit la lancinante litanie quotidienne de la vigilance nécessaire et où commence la saturation de l'espace médiatique? Aujourd'hui encore, difficile d'échapper à la contagion quand l'Organisation mondiale de la santé elle-même prévient « Ceci n'est pas un exercice, n'est pas le moment d'abandonner, mais au contraire, je cite, de lutter à fond. » Dans le monde, le nombre de cas de contamination au coronavirus flirte à présent avec les 100 000 et parmi ces personnes infectées, 3 385 en sont mortes. Ce matin, même le petit royaume himalayen du Bhoutan, connu notamment pour sa promotion du bonheur national brut, pays surtout isolé, a annoncé son premier cas confirmé. Des esplanades vides aux gares fantomatiques, en passant par les lieux saints désertés ce matin de la Mecque à la place Tiananmen, une série d'images satellites saisissantes publiées par une société américaine révèle par ailleurs l'impact de l'épidémie de coronavirus sur certains sites. Et c'est le cas en particulier au-dessus de Wuhan, épicentre de l'épidémie mondiale. Là-bas, des photos montrent des dizaines de trains stationnés dans une gare généralement animée et transformée depuis en dépôt de fortune. Alors il se trouve que hier, c'est justement dans cette ville sous quarantaine, coupée du monde, où plusieurs dizaines de millions de personnes sont aujourd'hui confinées chez elles, avec interdiction formelle de sortir, même pour aller chercher de la nourriture, que la vice-première ministre chinoise avait choisi de se rendre pour apporter son soutien aux habitants. Et chose inhabituelle dans un pays où les responsables politiques ne sont que très rarement confrontés au mécontentement populaire, encore moins sur la place publique, c'est par des cris de colère qu'elle a été accueillie. C'est une correspondance signée Stéphane Pambrun.
C'est faux. Tout est faux. Sous les cris de colère des habitants de Wuhan, la vice-première ministre chinoise a été froidement accueillie alors qu'elle visitait un quartier de la ville foyer de l'épidémie. À travers les fenêtres de leurs appartements où ils sont bloqués, avec interdiction formelle de sortir depuis plus de 3 semaines, ces habitants voulaient dénoncer ce qu'ils appellent les mensonges des autorités locales qui affirment livrer régulièrement de la nourriture, de l'eau potable et des produits de première nécessité aux habitants. Selon cette vidéo qui a circulé un moment sur les réseaux sociaux avant d'être censurée, ce n'est pas le cas. Beaucoup des habitants de Wuhan se plaignent d'être abandonnés. Certains estiment même ne pas pouvoir se rendre à l'hôpital pour consulter un médecin en cas de fièvre. Plusieurs dizaines de millions de personnes à Wuhan et dans les villes alentours sont ainsi enfermées chez eux de force. La vice-première ministre chinoise est la seule représentante du gouvernement à s'être rendue sur place depuis le blocage de la ville. Elle est aussi la seule femme membre du bureau politique chinois. Sa visite à Wuhan a donc été écourtée et selon plusieurs sources, la police s'est ensuite déployée dans le quartier pour répondre aux inquiétudes des habitants selon les médias officiels ou pour les faire taire.
Alors, avec un premier cas confirmé ce matin au Vatican, mais aussi un premier décès annoncé aux Pays-Bas après celui de la veille en Grande-Bretagne, l'épidémie de coronavirus poursuit donc son impitoyable progression. La crise a d'ailleurs de nouveau fait baisser les places financières asiatiques aujourd'hui, au lendemain d'une dégringolade des bourses européennes comme de Wall Street. Le moment est également critique pour l'organisation des pays producteurs de pétrole. Hier, l'OPEP a proposé une nouvelle coupe drastique de la production dans l'espoir d'enrayer la chute des cours. mais sans garantie ni d'accord ni de résultat, d'autant que le cartel doit encore pour cela convaincre son allié russe. Et puis cette épidémie est également l'occasion de s'interroger. Changera-t-elle la donne de la mondialisation? Changera-t-elle nos habitudes de travail? La Banque Centrale Européenne vient par exemple de demander aux banques de la zone euro de tester d'urgence leur système de télétravail. Et puis en Suède, là-bas, l'épidémie causée par le coronavirus avec près d'une centaine de cas pourrait relancer un projet de loi sur la réduction temporaire du temps de travail. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Voilà des mois en réalité que ce projet était dans les cartons de gouvernement et le coronavirus l'a donc remis au goût du jour. De quoi s'agit-il exactement?
Eh bien d'une mesure qu'en France nous connaissons bien, mesure de chômage partiel qui permet d'éviter les licenciements en cas de crise conjoncturelle. Concrètement, une entreprise confrontée à une baisse d'activité peut mettre ses salariés en chômage temporaire. Elle reçoit alors de l'État une allocation qui lui permet de verser à l'employé l'essentiel de son salaire. Mesure réclamée en ce moment par 400 entreprises françaises à cause du coronavirus, essentiellement dans la restauration et le tourisme. Alors en Suède, il existe bien une loi votée depuis la crise de 2008, mais elle est très restrictive. Le gouvernement avait dans ses cartons effectivement un projet d'extension du dispositif soutenu par les syndicats. Toutefois, il hésitait à le soumettre au Parlement où il ne dispose pas de majorité. Le virus va donc accélérer le processus. Coût estimé de la mesure sur une période de 6 mois renouvelable, 350 millions de couronnes, soit 33 millions d'euros par an.
Et puis, je le disais, on compte, Louise, une centaine donc de cas de coronavirus en Suède. Quelles sont les conséquences pour l'économie de ce pays, la première d'Europe du Nord?
Alors, sur le papier, elles sont pour l'heure limitées. Hein. Stockholm prévoyait une croissance de 1,1% cette année, taux ramené à 0,8%. Mais le gouvernement n'exclut pas un plan de relance dans les mois qui viennent. Comme ailleurs, c'est le transport aérien qui est le plus touché. Scandinavian Airlines a annulé tous ses vols vers la Chine, Hong Kong, l'Iran et le nord de l'Italie. Et la compagnie envisage des mises en congé forcé dès départ en pré-retraite, voire dès licenciement sec.
Merci Louise Baudet. En France, à présent, les deux dernières régions qui restaient jusque-là à l'écart de la contamination, en l'occurrence la Corse et le centre Val-de-Loire, ont rapporté leurs premiers cas sur l'ensemble du territoire. 138 nouveaux cas ont été détectés hier, portant à 423 le nombre de personnes contaminées, dont 7 sont décédées. Même l'Assemblée nationale n'est pas épargnée depuis qu'un député LR du Haut-Rhin a été hospitalisé hier en réanimation. Un autre salarié du Palais Bourbon a également été infecté, un autre cas lui suspecté. Alors cette augmentation rapide du nombre de cas conduit non seulement les autorités à préparer dès à présent le stade 3 des mesures de précaution, mais également le chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, à avertir les Français hier sur le caractère inexorable de cette épidémie. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Chaque jour qui passe, on le voit, la mobilisation de l'exécutif se fait plus pressante. Idem du côté des autorités sanitaires. S'agissant cette fois-ci des chercheurs, Tara, on imagine que chacun est aujourd'hui sur le pont, mais avec quels moyens?
C'est forcément la question qui fâche. Il existe plusieurs laboratoires en France qui travaillent sur les coronavirus, dont par exemple celui de l'Institut Pasteur à Lille. La virologue Anne Goffard réagit à cette demande de mobilisation générale.
On ne demande que ça, d'avancer rapidement sur ce coronavirus-là en particulier. Mais si on veut pouvoir avancer, il nous faut de l'argent pour pouvoir acheter des réactifs, faire fonctionner des machines, faire des collaborations avec des collègues français ou européens ou même internationaux. Et il nous faut de l'argent aussi pour embaucher du personnel, pour payer des techniciens, pour payer des ingénieurs. Mais dans notre équipe, on est 5. Voilà, on est 5. Parmi ces 5-là, moi je suis médecin, donc je passe la moitié de mon temps à l'hôpital. Et en ce moment, je passe plus que la moitié de mon temps à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de choses à y faire. On travaille 7 jours sur 7, c'est-à-dire que le week-end, le samedi, le dimanche, on va au laboratoire pour faire tourner les machines, pour vérifier que notre virus se réplique, pour entretenir les cultures cellulaires, etc. Donc c'est fatigant et on a donc besoin d'argent pour embaucher du monde pour pouvoir faire nos recherches.
Des recherches qui portent sur les protéines qui sont dans l'enveloppe du virus à sa surface et qu'il faut bien identifier de manière à pouvoir tester de futurs médicaments. Mais le laboratoire qui s'intéressait aussi au virus du SRAS et du MERS depuis des années a besoin de moyens à long terme, rappelle le professeur Goffard.
On fait de la recherche fondamentale sur la caractérisation des protéines des coronavirus. Là, pour ce coronavirus-là, on cherche à le multiplier en culture cellulaire, à le faire se multiplier de façon à pouvoir tester des molécules antivirales. Donc nous, on n'est pas sur la recherche d'un vaccin.
Mais bel et bien sur la recherche d'un médicament. 500 000 euros ont déjà été débloqués, a annoncé hier l'Élysée. Une enveloppe supplémentaire d'au moins 2 millions doit suivre rapidement. Le professeur Delfrécy, chargé de coordonner le travail de toutes les équipes en France, a mentionné 8 millions d'euros. Mais les chercheurs regrettent surtout que cet argent soit débloqué au dernier moment, alors que des travaux de fonds bien financés auraient pu porter leurs fruits depuis la crise du SRAS en 2003.
Merci, Ta Schlegel. Peu après l'annonce de sa relaxe par la Cour d'appel de Lyon, c'était le 30 janvier dernier, le prélat avait annoncé devant la presse qu'il remettrait une nouvelle fois sa démission au pape pour permettre à l'Église de tourner la page de cette affaire, symbole des défaillances de l'Église face à la pédocriminalité dans ses rangs. Et bien ce matin, le pape François a fini par accepter donc la démission de ses fonctions d'archevêque de Lyon du cardinal Philippe Barbarin, mis en cause pour ses silences sur des abus sexuels par un ancien prêtre du diocèse avant d'être relaxé. Quelques milliers de personnes se sont encore mobilisées hier dans plusieurs villes de France pour réclamer le retrait de la réforme des retraites dont le volet organique a été adopté dans l'après-midi par l'Assemblée. C'était le cas notamment à Marseille, Lille et Rennes. Deux jours donc après l'adoption en première lecture du volet principal via le recours à l'arme critiquée du 49-3, les députés ont en effet voté le projet de loi organique. Après toutefois que l'ensemble des groupes de gauche mais aussi les Républicains eurent quitté l'hémicycle pour protester contre les conditions d'examen du texte. C'est la fin d'une très longue attente après 18 mois d'audition et de rumeurs. La Villa Médicis à Rome a enfin un directeur. Son nom, Sam Sturze, 47 ans, directeur des rencontres de la photographie à Arles depuis 2014. Annonce faite donc ce matin par le ministre de la Culture, Franck Riester, qui avec le président Emmanuel Macron ont donc retenu le profil de ce jeune homme résolument tourné vers l'Europe. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour.
Sam Sturze prendra ses fonctions cet été et il aura la lourde tâche, Maxime, donc de relancer la vénérable institution après plusieurs années pour le moins mouvementée.
Oui, prestigieuse et très ancienne institution. L'Académie de France à Rome a été fondée en 1666 par Colbert sous le règne de Louis XIV. Elle a déménagé dans ses locaux actuels en 1803 sur la décision de Napoléon Bonaparte. Mais son histoire récente a été mouvementée donc ces dernières années. La précédente directrice Muriel Mayette a été évincée en septembre 2018. Sa direction, son style déplaisait, peut-être aussi son mari, le journaliste sportif Gérard Holtz. En tout cas, des résidents avaient écrit une lettre à la ministre de la Culture de l'époque pour se plaindre et depuis, l'institution avait un directeur par intérim. Le choix final s'est donc arrêté sur un spécialiste de l'image, Sam Sturze, lui-même résident à la Villa Médicis entre 2007 et 2008. On vient juste de le joindre, il se dit humble, honoré, très heureux et voici son projet.
C'est un moment où pendant un an, vous pouvez de manière complètement désintéressée réfléchir, travailler, penser, créer. Bon, il faut aussi que ce moment soit un moment d'action, de mise en réseau, de d'ébullition, d'échange. Pour beaucoup de pensionnaires, et quand on regarde la liste des gens qui sont passés par la Villa Médicis, la liste est prestigieuse. Pour beaucoup de pensionnaires, c'est un moment absolument unique. Et puis, pour d'autres, on a l'impression que cette chance n'est pas complètement saisie. C'est à l'institution de s'assurer que cette chance est saisie par tous.
Et les résidents sont écrivains, peintres, photographes, stylistes. Ils sont logés, rémunérés, plus de 3000 euros par mois pendant un an. Condition idéale donc pour créer dans l'écrin magnifique de ce palais sur la colline du Pincio à Rome. Le nouveau directeur est donc attendu l'été prochain.
Merci Maxime Tellier. 6 heures de discussion, dont 3 heures de tête-à-tête, auront suffi hier au président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine pour proclamer un cessez-le-feu à Idlib dans le nord de la Syrie. Un gel temporaire du conflit, donc, qui a au moins le mérite de calmer provisoirement les tensions, même si à la lumière des précédents accords, chacun mesure combien cette suspension des combats demeure encore extrêmement fragile. Alors, cet accord vient tout d'abord démontrer une fois de plus les relations compliquées qu'entretiennent aujourd'hui Ankara et Moscou, adversaires certes en Syrie et plus encore d'ailleurs en Libye, mais partenaire en revanche sur le plan commercial. Et puis l'autre enseignement, Christian Chesneau, c'est que cet accord révèle surtout l'isolement aujourd'hui du président Erdogan qui voit en réalité toutes ses principales revendications ignorées.
Dans ce bras de fer turco-russe, Vladimir Poutine est en train de faire plier Recep Erdogan, qui a dû se rendre à Moscou contraint et forcé, la Russie ayant menacé de frapper les troupes turques stationnées dans la région d'Idlib. L'accord de cessez-le-feu conclu hier à Moscou est une nouvelle illustration du rapport de force qui penche en faveur de la Russie, ce qui signifie concrètement que les gains territoriaux obtenus par l'armée de Bachar el-Assad pour reconquérir la dernière province rebelle grâce à l'appui de la Russie sont officiellement entérinés par la Turquie, à commencer par l'autoroute M5 qui relie Alep à Damas et qui est désormais reconquise. Les militaires russes patrouillent sur cet axe routier crucial pour le régime syrien, notamment au niveau de Sarakeb, carrefour stratégique sur la M5. Mieux, les Russes élargissent leur zone d'influence au profit de Bachar el-Assad avec un nouveau gain accepté par Erdogan, cette fois-ci concernant l'autoroute M4 entre Alep et Latakia sur la Méditerranée. L'accord conclu à Moscou prévoit une zone de sécurité de 6 km de part et d'autre de la M4 qui devient de facto la nouvelle ligne de front dans la région d'Idlib où des patrouilles turco-russes seront bientôt organisées. L'accord de cessez-le-feu ne dit rien en revanche de la douzaine de postes d'observation des militaires turcs qui sont aujourd'hui pour la plupart encerclés par l'armée syrienne. Il est probable que ces positions vont être transférées dans la zone de l'autoroute M4. Bref, l'armée turque, vulnérable parce que sans couverture aérienne, recule alors que le régime de Bachar el-Assad ne fait pas mystère que son prochain objectif, c'est la prise de contrôle de la ville d'Idlib.
Après l'accord historique de la semaine dernière signé entre l'administration américaine et les talibans destiné à mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique, les États-Unis cherchent désormais à obtenir l'appui du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un projet de résolution visant à entériner donc cet accord pourrait être soumis à un vote dès lundi. Sauf que la position de la Russie, comme celle de la Chine d'ailleurs, reste encore incertaine. Et puis, même si la dernière version amendée du texte ne parle plus de négociations de paix inter-afghane, peut-être par crainte qu'elle ne se tienne pas le 10 mars prochain à Oslo comme prévu, le projet de Washington vise également à mettre la pression aujourd'hui sur le gouvernement de Kaboul. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors ce matin, 18 personnes au moins ont été blessées dans une attaque contre un rassemblement politique dans la capitale afghane, de quoi douter évidemment de la possibilité de parvenir à rapidement donc à une paix durable en Afghanistan. Et puis autre point possible de crispation, Claude, hier la Cour pénale internationale a autorisé l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan, une enquête à laquelle l'administration américaine, qui ne souhaite pas être liée par l'état de droit, s'était toujours farouchement opposée.
Oui, l'administration Trump qui est furieuse évidemment. En fait, en ouvrant cette enquête, la CPI vise aussi bien les crimes présumés commis par les talibans et les forces afghanes pro-gouvernementales que ceux commis par toutes les forces internationales en Afghanistan, et évidemment les États-Unis sont les premiers visés. Alors viols, tortures, exactions, des accusations qui valent aussi pour les centres de détention cachés à l'étranger que les États-Unis ont utilisés pour interroger leurs prisonniers loin de toute convention internationale. Alors quand même, ce qu'il faut nuancer et préciser toutefois, Thomas, c'est que ce rejet des États-Unis envers la CPI, il n'est pas né avec la présidence de Donald Trump. En fait, les États-Unis n'ont jamais adhéré à la Cour pénale internationale. Cette institution fondée à la fin des années 90, à l'issue d'un processus quand même très long. L'idée, vous le savez, c'était quand même de pérenniser ce qui avait été fait avec le tribunal de Nuremberg à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, une justice en fait au-dessus des États. Mais pour les États-Unis, vous l'avez dit, pas question de laisser des soldats ou des dirigeants risquer d'être jugés par d'autres qu'eux. Et ils sont pas les seuls. La Russie, Israël, la Chine, par exemple, ne font pas non plus partie des États signataires. Alors le bras de fer entre les États-Unis et la CPI s'annonce sans merci, alors que ce que Washington cherche avec cet accord avec les talibans, c'est à se désengager du bourbier afghan, une promesse de campagne de Donald Trump. Donald Trump qui ne veut à aucun prix que son pays soit accusé de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
Merci Claude Guibal. Elle était la dernière femme pouvant encore peser dans la course à l'investiture démocrate et pourtant après une série de défaites cuisantes, la sénatrice Elizabeth Warren a finalement décidé hier de se retirer, laissant ainsi la place au grand duel attendu entre Bernie Sanders et Joe Biden. En revanche, l'ancienne professeure de droit pourfendeuse de Wall Street et un temps donné favorite s'est refusée pour l'instant à apporter officiellement son soutien à l'un ou l'autre des deux derniers candidats encore en lice. L'invité de la rédaction aujourd'hui, François Gémen, chercheur, membre du GIEC, mais aussi spécialiste de la géopolitique de l'environnement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérod. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Au vu de vos très nombreuses casquettes, donc il y a évidemment beaucoup de thèmes que nous souhaitions aborder avec vous. Peut-être pour commencer monsieur Gémen, et s'agissant du coronavirus, on fait aujourd'hui le constat qu'en réduisant les échanges mondiaux, cela a des effets immédiats de réduction contre la pollution. Évidemment, il n'est pas question de se réjouir pour autant de cette épidémie, mais qu'est-ce que vous inspire ce mal pour un bien ?
C'est dans quelque sorte un tragique paradoxe. Effectivement, on s'attend cette année à une réduction assez significative des émissions de gaz à effet de serre, et c'est une réduction en quelque sorte subie, non désirée. Et donc, qu'est-ce qui fait quelque part que la mesure qui porte le plus d'effets contre le changement climatique, ce n'est pas une mesure climatique, c'est une politique de santé publique, une politique de confinement et de quarantaine. Ça doit nous interroger, et ça amène une autre question naturellement, qui est de savoir pourquoi nous avons à ce point peur du coronavirus et pourquoi nous n'avons pas peur de la menace que représente le changement climatique. Sans doute, à mon avis, parce que la peur du coronavirus est une peur immédiate. Nous craignons chacun, chacune, de contracter immédiatement la maladie, tandis que le changement climatique apparaît encore comme quelque chose qui n'arrivera qu'aux autres dans un futur lointain.
Question de Véronique Robert.
François Gemène, la faune sauvage est désignée comme étant, et c'est le cas là avec le coronavirus, comme étant le point de départ d'épidémies mondiales. Ces agents pathogènes qui deviennent potentiellement mortels pour l'homme en quittant la sphère sauvage. Est-ce qu'on peut faire ce constat, François Gemène, que finalement c'est peut-être là l'urbanisation, la déforestation, l'industrialisation aussi effrénée qui offre la possibilité à tous ces virus d'arriver chez nous en grignotant l'espace sauvage?
D'une certaine manière, il est certain que l'empreinte humaine, aujourd'hui, s'est mise à peu près dans toutes les couches de la Terre, et que, alors que jusqu'ici nous avions un peu séparé, en quelque sorte, les activités naturelles des activités sociales et humaines, y compris dans la production scientifique et dans l'enseignement, on se rend compte en réalité que les deux ne forment qu'un, et qu'effectivement, nous sommes aussi profondément concernés par la Terre et pas seulement par le monde.
Vous dites, c'est intéressant, notamment par l'enseignement et la recherche scientifique, je veux dire que tout ça est trop séparé, on ne fait pas le lien avec tous ces
entendu,
problèmes.
Comment produisons-nous les connaissances dans les universités, pas seulement en France, mais partout dans le monde, en séparant les sciences naturelles des sciences humaines et sociales? Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir appréhender les grandes questions de santé publique, mais aussi de développement, de migration, de sécurité, il faut nous intéresser à la Terre et aux sciences de la Terre. On ne peut plus séparer, comme on le faisait jadis, la Terre et le monde, les sciences de la Terre, des sciences humaines et sociales.
On va parler maintenant élections dans 10 jours. Donc les Français sont appelés aux urnes. Des élections bleues, blanc, vertes, c'est le titre d'un grand reportage qui sera diffusé ce soir à 17h sur notre antenne. L'écologie comme nouvel horizon politique. Vous dites quoi? Méfiance? Ou quand même, sous l'effet de la mobilisation des jeunes notamment, bien, il y a un vrai engouement, peut-être même des politiques, sur ces questions environnementales?
Je pense que ce qui est remarquable dans cette campagne et dans le débat public, plus généralement depuis maintenant quelques mois, c'est de voir comme les questions d'environnement, et la question du climat en particulier, qui jusqu'ici était confinée à la sphère des spécialistes, des mesures techniques ou technologiques, eh bien est entrée par effraction, presque en démocratie, et devient aujourd'hui non seulement un sujet de préoccupation majeure des Français et donc des électeurs, mais un vrai sujet de débat public. On se rend compte que ce n'est pas juste une affaire d'environnement, que c'est une affaire profondément économique, politique et sociale, et c'est à mettre évidemment au crédit des jeunes qui sont descendus dans la rue et qui ont fait entrer ce sujet dans le débat public. Je pense qu'il y a un vrai point de basculement qu'on est en train de vivre.
Justement, vous faites partie de ces chercheurs qui soutenaient des actions des jeunes, des actions de désobéissance civile aussi. Vous étiez récemment place du Châtelet, vous avez parlé avec tous ces jeunes qui occupaient la place du Châtelet à Paris, le mouvement Extinction Rébellion. Pourquoi? Vous voyez, c'est la seule façon de se faire entendre? Il n'y a pas d'autre moyen?
C'est certainement pas la seule façon de se faire entendre, mais je crois que c'est une façon utile de se faire entendre parce qu'elle se réapproprie les instruments des luttes politiques et sociales, des grèves, des manifestations, des mouvements de désobéissance civile, pour faire entrer la question de l'environnement en démocratie et pour souligner que derrière cela, il y a de vraies questions politique et sociale, et donc cette réappropriation des instruments me paraît très très importante.
Alors de la même façon, ce week-end, c'est l'avant-dernier week-end, se réunit à Paris la Convention citoyenne sur le climat, là aussi c'est plein d'espoir, où on va emmener ces gens-là finalement à faire passer des messages que les politiques n'arrivent plus à faire passer.
Je dirais que tout dépend de la manière dont le gouvernement va se saisir des recommandations, tout va dépendre aussi des recommandations elles-mêmes que vont fournir ces citoyens. Est-ce que ça sera quelque chose de différent de ce que les députés auraient pu proposer? Tout reste à écrire. Mais ce qui me paraît vraiment important, c'est de voir comme, à partir de cette question climatique, bien entendu, c'est une terrible menace, une énorme responsabilité pour nous, c'est aussi, je crois, l'opportunité d'une refondation démocratique, et il faut pouvoir nous en saisir.
Ça vous intéresse comme chercheur, ce qui se passe là, avec tous ces 150 citoyens qui...
On vit une époque absolument fascinante, de renouvellement profond des questions de représentation. Et ce qu'on appelle parfois la crise climatique, même si j'aime pas ce terme de crise parce que c'est irréversible, est aussi profondément lié à la crise de la démocratie et de la démocratie représentative. administrative en particulier. Qui nous représente? Qu'est-ce que l'on cherche à représenter? Je pense que nous ne parviendrons pas à trouver les clés de sortie contre le changement climatique si nous ne résolvons pas aussi la crise démocratique.
Merci François Gémen.
Merci à vous.
Chercheur, je le rappelle, spécialiste de la géopolitique de l'environnement et membre du GIEC d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
Également à Véronique Robérot. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, encore perturbé sur la plupart des régions avec des pluies ou des averses parfois marquées, des passages nuageux fréquents et du vent en rafale. Des chutes de neige sont également attendues sur les reliefs à partir de 800 mètres. Une vigilance orange crue a par ailleurs été lancée sur deux départements, le Pas-de-Calais et la Vendée. Quant aux températures, elles afficheront entre 6 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.